Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, l'ex-ministre Albert Mabri Touakès, un ancien allié du président Alassane Ouattara, est candidat à la présidentielle d'octobre. Nous y reviendrons dans un instant. Au Mali, pays en pleine crise politique, l'armée a subi de nouvelles pertes avec 5 morts et 5 blessés dans le centre du pays. Et dans le nord du Cameroun, au moins 18 personnes ont été tuées dans une attaque de Boko Haram. Nous reviendrons également sur ces attaques au Mali et au Cameroun dans un instant. Au Sénégal, le cher Ahmed Tidiane, Khalife général de la Faïda Tidiane, est décédé ce dimanche à Kaolack. Né en 1932, cher Ahmed Tidiane est le fils et quatrième Khalife de Baïnias, fondateur de la confrérie des Niassènes, qui compte plusieurs millions de disciples au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Nigeria. Cher Ahmed Tidiane se déplaçait régulièrement pour y présider l'un des plus grands rassemblements religieux de ce pays. En Gambie, 4 jours après la vice-présidente Aissatou Touré, 3 membres du gouvernement ont été déclarés positifs au coronavirus. Selon la présidence, il s'agit des ministres des Finances, du Pétrole et de l'Énergie et de l'Agriculture. Après la nouvelle sur sa vice-présidente, le 29 juillet, le président Adama Barrow s'était immédiatement mis en isolement pour 2 semaines. La Gambie a officiellement déclaré 498 cas de coronavirus pour 9 décès. À travers le monde, plus de 18 millions de cas ont été officiellement recensés, dont plus de la moitié aux États-Unis et en Amérique latine et aux Caraïbes, selon un comptage de l'AFP hier. Au moins 18 millions 11763 cas, dont 687 941 décès, ont été déclarés, notamment aux États-Unis, pays le plus touché au monde, avec plus de 4,6 millions de cas, dont près de 155 000 morts. Au Brésil, plus de 2,7 millions de cas, dont plus de 94 000 décès. Et en Inde, plus de 1,7 million de cas, dont 37 364 morts. Le rythme de la pandémie, qui a déjà fait plus de 685 000 morts, continue de s'accélérer dans le monde, avec 1 million de cas supplémentaires détectés en moins de 4 jours. Les deux astronautes de la NASA, Bob Behnken et Doug Hurley, sont revenus sur Terre hier à bord d'une capsule de la société SpaceX, après 2 mois dans l'espace, une mission de démonstration réussie qui ouvre la voie à des vols réguliers avec ce nouveau véhicule spatial. Cet aller-retour réussi vers la Station spatiale internationale est non seulement le premier assuré par une société privée, mais il met fin au monopole russe pour l'accès à la station depuis que les Américains ont mis au garage leur navette spatiale en juillet 2011. Le président américain Donald Trump prendra dans les prochains jours des mesures contre les sociétés chinoises et de logiciels qui transmettent leurs données directement au gouvernement chinois et présentent un risque pour la sécurité nationale des États-Unis, a dit hier le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Le président Trump a dit « ça suffit et nous allons régler le problème », a notamment déclaré M. Pompeo sur la chaîne de télévision Fox News. En Afghanistan, un attentat à la bombe revendiqué par le groupe État islamique a fait au moins 3 morts et des dizaines de blessés hier devant une prison de la ville de Jalalabad dans l'est du pays, ont annoncé les autorités. Cet attentat est intervenu au 3e et dernier jour d'une trêve entre le gouvernement afghan et les talibans à l'occasion de la fête musulmane d'Aïd al-Adha, une trêve globalement respectée sur fond d'espoir de pourparler de paix. Ici aux États-Unis, la trompette tropicale Asaès s'est rapprochée des côtes de la Floride dimanche, menaçant de provoquer des vents violents, des inondations et de fortes vagues. La suite de nos informations, en Côte d'Ivoire, l'ancien ministre Albert Mabri Touakeus, ancien allié du président Alassane Ouattara, a été désigné dimanche candidat de l'UDPCI à la présidentielle d'octobre. Il affirme être désormais dans l'opposition. La veille, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo a décidé l'ancien premier ministre Pascal Affingessan comme candidat du FPI. Nathalie Barche.
Albert Mabri Touakeus, ancien ministre de l'enseignement supérieur, avait quitté le gouvernement le 13 mai. Il s'était opposé à la désignation d'Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP au pouvoir. L'UDPCI a aussi officiellement décidé de son retrait du RHDP avec lequel il formait une coalition, affirmant désormais se ranger dans l'opposition. Samedi, le FPI a désigné l'ancien Premier ministre Pascal Affingessan comme candidat du parti de Laurent Gbagbo. Mercredi, pressé par son parti de se présenter pour un troisième mandat, le président Alassane Ouattara a différé sa décision invoquant le temps du deuil après la mort de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. L'ex-président Henri Konan Bédier a été désigné le 27 juillet candidat du PDCI et une semaine auparavant, l'ex-ministre des Affaires étrangères Marcela Montano s'est déclaré candidat en dissidence du parti au pouvoir.
Au Cameroun, au moins 18 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche et plusieurs autres blessées lors d'une attaque attribuée à Boko Haram contre un camp de personnes déplacées dans l'extrême nord du pays. Les détails avec Michel Joseph.
Mahamat Chitima Abba, maire de Mayo Moskota, où est situé le camp de Ngetchewe, impute l'attaque au groupe Boko Haram. Il y avait un calme relatif depuis quelques semaines, mais ils ont profité de leur connaissance du terrain pour contourner les points de surveillance et les positions des forces de sécurité. Ils nous ont surpris, a expliqué le maire. Les djihadistes originaires du Nigeria attaquent régulièrement l'extrême nord du Cameroun, notamment pour y voler du bétail et des vivres. Le Cameroun et les autres pays limitrophes du lac Tchad luttent au sein d'une force multinationale contre ces groupes islamistes. Ces derniers ont à nouveau frappé au Tchad vendredi, tuant 10 civils dans l'attaque d'un village.
Au Mali, 5 Maliens ont été tués et 5 blessés dimanche, en milieu de journée, lors de 2 attaques simultanées dans le centre du pays. Nathalie Barge.
La double attaque s'est déroulée entre Goma, Koura et Diabali. Une mission FAMA a été accrochée par des terroristes. Au même moment, le camp de Goma, Koura a été attaqué à l'arme lourde, a précisé l'armée. C'est un convoi militaire quittant Goma, Koura vers Diabali qui est tombé dans une embuscade, a indiqué un élu de Diabali. 4 pick-up et un véhicule blindé sont portés disparus, a-t-il ajouté, expliquant que les habitants du cercle de Nioro, dans la région de Ségou, vivent dans la peur. 24 soldats avaient été tués en juin dans une embuscade attribuée aux djihadistes à Boukawere, au sud-est de Diabali. Le 26 janvier, une attaque contre le camp de Sokolo avait coûté la vie à 20 soldats. Elle avait été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda.
La Minute Écho, John Linden.
Kenya Airways a repris ses vols internationaux samedi vers une trentaine de pays après avoir été cloué au sol depuis le mois de mars. Les vols intérieurs ont repris à la mi-juillet. À cause de la pandémie de COVID-19, les transporteurs africains devraient perdre 6 milliards de dollars cette année. Alan Kilavuka, directeur général de Kenya Airways, assure que sa compagnie a enregistré en 2019 des pertes de l'ordre de 120 millions de dollars et n'a licencié que 650 personnes. Au Cameroun, la chaîne hôtelière Radisson Bleu va ouvrir un nouvel hôtel dès le premier trimestre 2021 à Douala, la métropole économique. C'est le fruit d'un partenariat public-privé. La chaîne hôtelière internationale compte déjà quelques 158 hôtels dans le monde et 45 sont en cours de construction. TikTok, l'une des applications les plus téléchargées par les adolescents à travers le monde, est interdite aux États-Unis. Cette décision de Donald Trump pourrait aussi contrecarrer la décision de Microsoft d'acheter l'application de partage des vidéos auprès de son propriétaire, ByteDance. TikTok est évalué à quelque 50 milliards de dollars. Lancé en 2017, TikTok a battu des records avec 2 milliards de téléchargements sur le seul mois d'avril 2020.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
En Côte d'Ivoire, Didier Drogba a officiellement déposé sa candidature à la présidentielle de la FIF samedi 1er août, date limite pour se lancer dans la course.
Oui, la star ivoirienne accompagnée de son père s'est rendue en personne au siège de la FIF où l'attendaient des milliers de supporters. Un engouement populaire sans précédent. Drogba, qui a dû batailler pour construire sa candidature, saura mercredi prochain si la commission électorale va valider son dossier. On retrouve notre correspondant à Bouaké, Siriki Baro, à travers ce reportage.
C'est une foule immense qui attendait Didier Drogba devant le siège de la FIF ce samedi, dernier jour de dépôt des candidatures. Un mouvement de soutien populaire orchestré sur les réseaux sociaux par son ex-coéquipier en sélection nationale, Copa Barry. Jamais une élection à la présidence de la FIF n'avait suscité autant d'intérêt et de remous au sein de la sphère footballistique ivoirienne. L'ancien attaquant ivoirien s'est adressé aux nombreux admirateurs venus le soutenir. Il a indiqué que cette candidature répond à un seul besoin, celui de rendre au football ivoirien ce qu'il lui a donné tout au long de sa carrière. Il se dit déterminé à participer au renouveau du sport roi en Côte d'Ivoire. Pour sa candidature, Didier Drogba a obtenu le parrainage de 7 clubs de football des différentes divisions. Au niveau des 5 groupements d'influence, seul le groupe des arbitres dissidents de l'Amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire a accordé son parrainage à l'ex-buteur des éléphants. Ils sont donc 4 candidats pour le sprint final. Le suspense demeure entier. Siriki Baro, Bouaké, VOA Afrique.
Au Mali, la date de la 22e et dernière journée de la phase de poule du championnat national Ligue 1, saison 2019-2020, est connue.
Tout à fait, et elle se jouera le 21, 22, 23 août prochain. C'est une décision prise par le comité exécutif de la Fédération malienne de football suite à la réouverture des infrastructures sportives par le ministère des Sports. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
Le comité exécutif de la FEMAFOOT avait hâte de reprendre la compétition pour boucler le championnat national au compte de la saison qui s'achève. D'où cette annonce de la reprise faite le lendemain de la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports. Comme pour dire qu'il n'y a plus de temps à perdre, les 23 clubs auront seulement 3 semaines pour les préparatifs. Cela permettra en quelque sorte aux joueurs de se mettre en jambes. L'enjeu de cette dernière journée qui s'annonce pour les 21, 22 et 23 août 2020 est déterminant. Elle permettra de connaître les 2 autres clubs qualifiés pour les Caredas, en plus du Djoliba Athletic Club et du Stade Malien de Bamako. Et ce sont les 4 qualifiés au Caredas qui joueront pour le titre du champion. Pour rappel, les infrastructures sportives avaient été fermées en mars dernier suite aux décisions prises lors de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense sur les mesures relatives à la pandémie du coronavirus au Mali. Du coup, le sport en général et le football en particulier avaient été paralysés. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Le football a repris en Tunisie avec la 17e journée de la Ligue 1.
Après le Maroc, la Tunisie aussi a repris son championnat suspendu à cause de la pandémie de coronavirus et celui de leader au classement. L'Espérance de Tunis a assuré l'essentiel contre l'AS Soliman en s'imposant sur la marque de 2-1. Le club sportif sfaxien, second au classement, s'est contenté du point du match nul 1-1 chez l'US Tataouine. L'étoile du Sahel, vainqueur 3-1 de la JS Kaouran, prend la 4e place. Et puis, en clôture de cette 17e journée, le club africain a été accroché 0-0 par l'US Monastir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, Pascal Afinguesson, 67 ans et ancien proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été déclaré samedi à Abidjan candidat à la présidentielle d'octobre. Afinguesson, qui dirige actuellement une aile du FPI, le Front populaire ivoirien, devra faire face à l'ancien président Henri Konan Bédié et potentiellement aussi à Alassane Ouattara, qui est sous la pression de ses partisans pour briguer un troisième mandat. Joint à Abidjan par Bagassi Koura, Afinguesson réagit à sa nomination comme candidat du FPI.
C'est beaucoup d'honneur, beaucoup de considération, beaucoup de confiance, puisque c'est la deuxième fois que le parti me fait l'honneur de me désigner pour le représenter à l'élection présidentielle. Et une lourde responsabilité aussi, compte tenu du contexte des défis que le pays affronte à l'heure actuelle.
Quels sont vos atouts face notamment au candidat Bédié et éventuellement un candidat du RHDP?
Je crois que le premier atout, c'est que vis-à-vis de ceux qui se sont positionnés, j'apparais un peu comme un homme neuf, un candidat d'une nouvelle génération, un candidat à qui on peut a priori accorder une chance de prouver ce dont il est capable. Alors que les autres, on les a déjà vus gérer, on sait ce dont ils sont capables, ils incarnent dans une certaine mesure un passé qui n'est pas un passé reluisant pour la Côte d'Ivoire, un passé d'affrontement, un passé de violence, un passé de division.
Est-ce que vous allez tenter de réunifier le FPI avant les élections?
Mais d'une façon, la réunification est en cours. Hein, et ma candidature, le programme que nous proposons, devrait être des instruments majeurs dans le rassemblement des militants et donc dans la réunification du parti.
Vous l'avez dit, hein, le RHDP appelle au secours Alassane Dramane Ouattara. À votre avis, il devrait être candidat pour un troisième mandat?
Non, mais enfin, ça, ce n'est pas moi qui devrais dire s'il doit être candidat ou pas. Moi, j'ai pris acte du fait qu'il n'est plus candidat. J'ai pris acte du fait qu'il est dit qu'il n'est plus candidat. Je constate que son parti est désespéré et appelle au secours. Et j'analyse que cette attitude découle du fait que les cadres de ce parti craignent l'alternance, ont peur du changement, parce que certains pensent qu'il y a que ceux qui vont arriver au pouvoir peuvent être animés d'une volonté de vengeance, une volonté de chasse aux sorcières. Donc, ils n'ont rien à craindre, ils n'ont pas besoin d'appeler Ouattara qui ne veut plus se préparer au jeu politique. Ils considèrent qu'il a fait ce qu'il a à faire et qu'il faut passer le flambeau à une nouvelle génération. Ils n'ont pas besoin d'appeler Ouattara au secours. Ouattara peut donner la chance à une nouvelle génération. Ils en prennent acte et que nous nous mobilisions tous pour aller aux élections avec le candidat qui incarne la nouvelle génération pour que la Côte d'Ivoire choisisse effectivement un candidat de la nouvelle génération afin de tourner la page de ces 30 ans de crise que le pays a connu.
Afinguesson réagissant à sa nomination comme candidat du FPI.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Gabon, l'eau potable est un souci pour certaines populations qui n'en trouvent pas assez. Pourtant, dans ce petit pays d'Afrique centrale, il pleut 9 mois sur 12. Le problème reste dans la distribution de cette eau aux ménages. Reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze à Ndiolé, où les populations utilisent encore les eaux souterraines pour leurs besoins domestiques.
L'accès à l'eau potable reste très inégal entre Libreville et le reste des villes du Gabon. Les victimes de ce qu'on qualifie de stress hydrique se font entendre dans cette petite commune de plus de 5000 habitants. Située à seulement 200 km de la capitale gabonaise, Ndjolé s'approvisionne en eau souterraine, une pratique courante dans plusieurs centres urbains du pays. Virginie Makessa est chef de quartier du kilomètre 1 de la ville.
C'est Dieu qui a créé la source et nos parents, avant qu'il y ait les fontaines publiques, on prenait l'eau par ici depuis les années 60, mais la SCG est arrivée, c'est l'évolution. Ils ont mis les fontaines publiques qui ont à un moment donné l'eau et ça fait peut-être plus de 20 ans, on n'a plus d'eau.
Ce mode de distribution traditionnel de l'eau placée souvent derrière les maisons est loin d'optimiser l'alimentation générale en cette période de saison sèche. De plus, il ne garantit aucune exigence de qualité du liquide produit par la source. D'où ce cri de détresse de Benoisé, président du conseil des sages de la Bangabigné, dont Djolé est le chef-lieu.
On essaie de la traiter en la faisant bouillir, etc., mais ce n'est vraiment pas la solution. Puisque quand on se lave avec, vous vous grattez. Donc notre population est en danger, en danger grave parce que nous n'avons pas d'eau. Et même pour se protéger du coronavirus, il faut se laver les mains.
En prenant la mesure de ce problème d'accès à l'eau potable dans les grandes villes du pays, le gouvernement invite tous les acteurs de la chaîne de production, de transport et de distribution de l'eau à une prise de responsabilité immédiate. Alain-Claude Bilibizé, ministre gabonais de l'énergie et des ressources hydrauliques.
L'eau, c'est la vie. On ne joue pas avec ça. Lorsqu'on a une ville de 6000 habitants, on n'a que deux quartiers qui ont à peu près accès à l'eau potable, il y a un problème. On ne peut pas laisser faire ça, nous sommes en 2020. Mais en tant que ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, il était utile que je revienne, que je regarde. Ce qui se passe à Ndjolé, se passe à Boué, se passe à Mekambo, se passe à Tshibanga, et on va trouver des solutions progressivement, mais il y aura des solutions.
La plupart des investissements matériels et financiers engagés par le Gabon ces dernières années pour apporter de l'eau aux populations sont restés concentrés sur Libreville et ses environs. Cela au détriment d'autres capitales provinciales. Le nouveau gouvernement promet de changer la donne. Depuis Ndjolé, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, 10 000 personnes décèdent des suites d'hépatite virale chaque année. Le pays est l'un des plus touchés en Afrique et dans le monde, avec une prévalence de plus de 10% pour l'hépatite B, et 12% pour l'hépatite C. Un mois de sensibilisation nationale contre les hépatites virales est en cours et les autorités sanitaires mettent un accent particulier sur la transmission des hépatites de la mère à l'enfant. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Chaque femme enceinte doit être systématiquement dépistée pour le virus de l'hépatite B.
Professeur Judith Ndongo est membre du consortium scientifique qui travaille sur les facteurs de risque de transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant au Cameroun. En collaboration avec les hôpitaux du pays, l'Université de Yaoundé 1 et les chercheurs du Centre international de référence Chantal Biya, ce consortium espère à l'horizon 2030 réduire l'incidence de l'infection de l'hépatite virale chez les enfants de moins de 5 ans, autour de moins 1%. Professeur Judith Ndongo, chercheur.
On continue à dépister le virus de l'hépatite B chez les femmes enceintes et refaire ce dépistage chaque 3 mois jusqu'à l'accouchement. Après l'accouchement, on suit le nouveau-né pour voir le taux de transmission. Le défi qu'on a, c'est les femmes enceintes qui ne viennent pas systématiquement à l'hôpital pour le suivi qu'il faut.
La transmission de l'hépatite virale B de la mère à l'enfant se fait facilement lors de l'accouchement si les moyens de prévention ne sont pas mis sur pied. 90% des enfants nés des mamans portant l'hépatite B sont infectés.
Plus tôt c'est dépisté, mieux c'est traité.
Professeur Louis-Richard Ndiok, secrétaire général du ministère de la Santé publique.
Nous invitons les populations, les femmes enceintes en âge de procréer à se faire dépister parce que nous avons des résultats de plus de 90% sur le plan du traitement. Sans ce n'est pas fait, l'issue de la maladie est plutôt fatale.
Cette infection fait des ravages même dans les zones reculées. Le gouvernement vient de créer un comité de prise en charge et un centre de traitement à griller des hépatites virales à Bertois, dans la région de l'Est, l'une des plus enclavées du Cameroun, à plus de 330 km de Yaoundé. Docteur Huguette Nguélé-Meke, directrice de l'hôpital régional de Bertois.
Une campagne de dépistage gratuite a été lancée, puis mettre sous traitement des personnes qui seront dépistées positives, soit à l'hépatite B, soit à l'hépatite C.
À l'hôpital de Foulane à Yaoundé, les femmes enceintes et les mères de nouveau-nés sont de plus en plus sensibilisées sur les hépatites virales. Brenda est mère d'un nouveau-né de 3 mois.
Pendant que je partais encore à l'hôpital faire les visites prénatales, mon médecin, en fait, elle me disait que cette maladie, quand une femme est enceinte, elle doit automatiquement faire ses tests pour épargner l'enfant de cette maladie.
En cas de contamination, le traitement de l'hépatite B est à vie. Sa prise en charge n'est pas gratuite au Cameroun. Les comportements sexuels à risque, les accidents transfusionnels et les scarifications sont les modes de contamination les plus répandus des hépatites virales au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jelumtap, VOA Afrique.
Le Bénin a célébré ce week-end son 60e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale. Cette célébration, qui intervient en pleine pandémie de coronavirus, est la dernière du quinquennat de Patrice Talon. Le bilan reste mitigé dans tous les domaines, selon notre correspondante sur place, même si certains pensent que de nombreux efforts ont été faits pour le développement du pays. De Cotonou, Ginette Fleur à Dandé.
Les festivités marquant les 60 ans de l'indépendance se sont déroulées en toute sobriété. La pandémie du coronavirus a empêché les manifestations de part et d'autre. Le défilé militaire n'a duré qu'un quart d'heure et a eu lieu à la présidence de la République. D'ailleurs, les Béninois n'ont pas le cœur à la fête. Anissé Comlenvi est fiscaliste. Il pense qu'en 60 ans d'indépendance, la misère est devenue le quotidien de bon nombre de Béninois.
La pauvreté ambiante et la misère, c'est la chose la mieux partagée au Bénin. Nous avons une économie essentiellement fiscale et ça ne suffit pas. Nous avons une croissance qui est tirée par le coton. Le coton est notre premier produit de rente. On passe tout son temps à aller motiver les paysans à cultiver le coton, qu'on ne mange pas, qu'on ne délaie pas, qu'on exporte intégralement.
Sur le plan des réformes et de la gouvernance, certains parlent d'un éternel recommencement. En 60 ans d'indépendance, les hommes qui se sont succédés à la tête du pays se sont inscrits dans un esprit de raser tout ce qui a été accompli par leurs prédécesseurs. Pour sa part, Anselme Merintor, il est observateur.
L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est comme si, bon, on veut tout reprendre à zéro. Et c'est ça qui pénalise la population. Il faut que les réformes soient beaucoup plus orientées vers l'esquisse d'une base solide que de dire, bon, tout ce qui était fait avant, c'est mauvais, je rase, je reprends.
Même si le Bénin a connu des soubresauts sur le plan politique, le dysfonctionnement remarqué ces dernières années est intense. Jacques Aizan, politologue, plaide pour l'union afin de construire le Bénin dans la paix et la fraternité.
Il est important qu'entre fils de ce même pays-là que nous puissions nous parler et nous entendre sur l'idéal. Que les acteurs politiques puissent être sincères l'un avec l'autre. Que le président de la République puisse véritablement comprendre les acteurs politiques de notre pays pour qu'ensemble, ils puissent donc se mettre d'accord sur ce qu'il faut pour la paix dans notre pays.
Dans son discours à la nation, Patrice Talon a invité les Béninois à travailler davantage pour relever le niveau du pays. Aucun sacrifice ne sera suffisant pour le développement national, a-t-il déclaré.
La célébration de notre fête nationale, marquant le 60e anniversaire de notre indépendance, nous engage à la conscience résolue de la maturité de notre nation, ainsi qu'à la mesure de la responsabilité qui en résulte. Elle nous impose de sortir définitivement de l'euphorie des indépendances pour construire notre devenir. Car il n'y a pas de réelle indépendance, de réelle liberté sans développement qui nécessite le travail acharné et une prise de conscience effective de nos devoirs.
Cette célébration est la dernière de Patrice Talon en tant que chef de l'État si on s'en tient à la promesse de ce dernier de faire qu'un seul mandat de Cotonou, Ginette Fleur, dans les pouvoirs africains.
c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seludia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.